Et voilà, les termes d'un point de vue industriel et de l'ingénieur dans l'industrie. Nous remercions Monsieur Serge Planton d'être venu de Toulouse pour nous rejoindre. Donc Monsieur Planton est un scientifique français, ingénieur. Il a des ponts et forêts. Il est à Météo France, responsable du groupe de recherche climatique. Il est. Alors, je sais qu'il a participé au GIEC, je ne pourrais pas dire. Ah, c'est ça. Il est coéditeur d'un chapitre Évaluation des modèles climatiques du cinquième, c'est-à-dire le dernier, qui est sorti fin 2014, donc du Groupement international d'études du climat. Je signalerai aussi, parce que personnellement je l'apprécie beaucoup, qu'il est contributeur d'un site web qui s'appelle le climat en question, voilà, qui vous permet de tester vous-même vos connaissances et de façon assez simple. Monsieur Planton, vous avez vous aussi une vingtaine de minutes. Merci beaucoup.
Merci, merci de votre invitation, de votre accueil. Bien, voilà donc le titre qui m'a été proposé est évidemment vaste, donc j'ai choisi de l'aborder en essayant de faire ce qui est un défi, un résumé de principales conclusions du dernier rapport du GIEC, en mettant quand même un petit peu plus l'accent sur une première question qui est le rôle anthropique, pour savoir ce que le rapport en dit en particulier. Et donc parce qu'évidemment, si on veut effectivement être convaincu qu'il faut agir pour la planète telle que c'était formulée, encore faut-il être convaincu effectivement que les activités humaines ont bien un effet déjà actuellement constaté finalement sur les évolutions climatiques dont on parle beaucoup en ce moment, notamment à l'approche de la conférence de Paris. Alors donc, cette première diapositive, c'est simplement pour rappeler que un rapport donc, vient d'être publié par des experts. Donc c'est 2500 en fait experts au niveau international qui ont contribué à la rédaction de ce dernier rapport du GIEC qui en fait a été publié en 4 volumes comme c'est indiqué ici, dont un rapport de synthèse, et c'est plutôt sur le rapport de synthèse, je vais essayer de faire la synthèse qui est évidemment extrêmement difficile, compliquée, mais évidemment l'objectif n'est pas non plus de rendre compte de l'ensemble de ces travaux, c'est juste d'introduire cette question du défi climatique. Et j'insisterai plutôt sur le volet planétaire, bien qu'on s'intéresse évidemment plutôt à ce qui va se passer bien à Montpellier en particulier, dans les environs, entre autres, parce que c'est aussi du fait de l'actualité, de la conférence de Paris, donc je reviendrai aussi sur les objectifs de la COP21 dans ce contexte. Donc le rapport a été publié essentiellement donc, en 2013-2014, et donc j'ai stressé de première question en remontant à une figure qui est dans le rapport, et qui représente l'évolution de la température reconstruite sur les 1400 dernières années. Il y a un repère, vous voyez, de la température très pointillée, ce qui correspond à zéro, c'est parce qu'on a enlevé la moyenne de la période 1500-1850. C'est évidemment l'évolution, ce n'est pas la température absolue. Et dans cette reconstruction, évidemment incertaine, cela se traduit par la plage de gris qui apparaît sur cette figure, bien, on fait le constat que la période récente est une période de réchauffement rapide, et d'après le GIEC même, il est probable, il y a 2 chances sur 3 pour que l'évolution de la moyenne des températures des 30 dernières années, en fait 1983-2012, pour le moment où le rapport a été publié, soit la période la plus chaude de cette période de 1400 ans. Alors on sait pourquoi le climat a évolué de cette manière au cours de cette période. Une des causes, c'est la variabilité solaire, qui est évidemment la cause principale d'évolution du climat, c'est le soleil. Donc j'ai mis en rapport une courbe de reconstruction du nombre de taches solaires qui est un témoin de l'activité solaire. Ici, mis en rapport sur la période 1600-2000. Alors pour le voir un petit peu mieux, j'ai grossi la figure. Il y a en particulier une période qu'on appelait le minimum de Maunder, où on a mesuré pratiquement aucune tache solaire pendant plusieurs années, qui est un témoin d'une très faible activité solaire qui s'est traduite par un minimum également de température au cours de cette période-là. Et puis, d'autres sources de variabilité, c'est en particulier l'activité volcanique, autre source naturelle d'évolution du climat, avec en particulier cette éruption majeure qui a eu lieu en 1815, qui a été responsable de l'éruption du Tambora, de ce refroidissement dont on fait le constat ici quelques années après. Voilà, donc, on connaît, bien entendu, il y a des causes naturelles aux évolutions du climat, et c'est ce qu'elle dit, que cette courbe d'évolution reconstruit sur 1400 ans, après analyse, bien entendu. Et puis, le réchauffement récent, il est ici mis en exergue, avec cette fois, ce ne sont plus des reconstructions à partir d'indicateurs paléoclimatiques, mais des mesures faites à partir de stations météorologiques, des mesures faites sur des bateaux, des bouées, et donc, c'est, il y a une question tout à l'heure, l'augmentation de température récente de 0,9 degrés sur la période 1901 jusqu'à 2012, eh bien, donc, on en a fait déjà le constat. Pour autant, ça ne veut pas dire que, c'est pas parce qu'il y a un réchauffement rapide, c'est pas parce qu'aussi on fait le constat, comme on le verra tout à l'heure, qu'il y a une augmentation de la concentration des gaz à effet de serre de l'atmosphère, qu'il y a forcément un lien de cause à effet. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc pour insister sur ce réchauffement, le réchauffement n'est évidemment pas homogène sur toute la sphère terrestre. Il y a en particulier sur la période 1901-2012 quelques régions qui se sont refroidies, c'est le cas dans l'Atlantique Nord, mais on voit bien que ce qui est en rouge, ce sont toutes les régions qui sont réchauffées. Elles couvrent évidemment l'essentiel de la planète avec en particulier un réchauffement qui est plus important sur les continents que sur les océans. Et juste pour illustrer le fait qu'on n'a pas simplement une indication de ce changement climatique par l'observation de température, il y a aussi des indicateurs indirects du réchauffement, comme par exemple le montre cette animation de photographies qui ont été prises de recul d'un glacier entre 1862 et 2012. Évidemment, ça, ce type d'images, si on les avait, on pourrait les multiplier sur un grand nombre de localisations. C'est par exemple, malheureusement, vous avez peut-être déjà vu que sur les Pyrénées, par exemple, on a aussi un recul assez net du glacier dessous, du Lignemale. Donc on fait ce constat, évidemment, à l'échelle planétaire. Ce sont des témoignages visibles, là, peut-être plus visibles que ne le sont les évolutions climatiques, qui sont forcément lentes et masquées par la variabilité météorologique. Donc il est difficile d'en avoir une perception à échelle humaine. Au moins, les glaciers, eux, sont des témoins assez directs de ces évolutions. Alors donc, je le disais tout à l'heure, les gaz à effet de serre, leur concentration a augmenté, ça a été de toute façon dit au préalable. On le voit dans l'atmosphère, comme on le voit sur ces courbes ici, mais aussi dans l'océan, et ça a un impact là dans l'océan sur l'acidification de l'eau. La diminution de cette courbe traduit en fait une augmentation qui est ici, c'est le pH en fait, donc c'est une augmentation de l'acidité, qui a un impact sur les écosystèmes. Actuellement, on ne peut pas encore déceler véritablement cet impact réel sur les écosystèmes observés. On le soupçonne quand même pour l'impact déjà sur les coraux, sur le blanchiment des coraux, bien que ce soit surtout la température là, qui ait un effet sur ce blanchiment. L'effet principal semble être lié plutôt à la température. Alors donc, la conclusion du GIEC, qui est dans le rapport, là c'était le volet 1 du rapport, on la retrouvera dans le rapport de synthèse, c'est que le réchauffement du système climatique est sans équivoque, et on l'observe non seulement dans l'atmosphère, l'océan, par la température, mais aussi par la fonte des neiges, des glaces, d'autres indicateurs, bien entendu, que tout ce que j'ai montré. Alors, pour autant, le lien de cause à effet, donc je le disais, c'est pas parce que les observations sont corrélées qu'il y a nécessairement, vous êtes ingénieur, vous le savez très bien, qu'il y a une relation de cause à effet. Alors, comment est-ce qu'on apporte une preuve de cette relation de cause à effet? C'est par l'intermédiaire de la modélisation climatique. C'est tout un sujet en soi, évidemment, dans lequel je ne vais pas entrer maintenant. Donc, je vais simplement montrer un résultat illustratif, parce que les analyses vont bien au-delà de ces résultats, bien entendu, qui est ici, vous le voyez, une représentation à la fois des observations de température, les mêmes que l'on voyait tout à l'heure, qui sont en noir, avec différentes reconstructions, basées sur des observations donc, de stations, etc., de mesures bateaux bouées. Et puis en bleu et rouge, ce sont des résultats de simulation numérique. Donc on compare ce que le modèle est capable de reproduire pour la température depuis 1860 jusqu'à nos jours. Et là, on peut faire le constat que les modèles sont incapables de reproduire le réchauffement récent depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Mais donc, l'explication est dans le titre. Il s'agit de simulations dans lesquelles on ne prend en compte que les facteurs naturels que j'évoquais tout à l'heure, variabilité solaire et variabilité volcanique, plus une variabilité dont je n'ai pas parlé, qui est la variabilité interne du système climatique. Par contre, si on inclut en plus de ces facteurs naturels, les effets liés à l'augmentation des gaz à effet de serre et aussi les particules de la pollution atmosphérique qui restent en suspension dans l'atmosphère du fait aussi des particules liées aussi aux activités humaines, mais dans ce cas-là, on arrive à réconcilier la simulation et l'observation. Donc ce n'est pas une preuve unique en soi, donc je le dis, il y a d'autres analyses bien entendu derrière, c'est une illustration, et la somme de toutes les études qui ont pu être faites jusqu'ici ont conduit donc le GIEC à dire que l'influence humaine sur le système climatique est claire et qu'il est extrêmement probable que l'influence humaine a été la cause principale du réchauffement depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Voilà, donc j'en viens rapidement aux principales conclusions du rapport, donc, puisque là j'ai parlé du passé, cette question du rôle anthropique, maintenant les scientifiques disent qu'elle est effectivement avérée. Donc on arrive plutôt maintenant à la question du futur, le défi pour le futur. Le rapport du GIEC traite assez longuement cette question du climat futur, des impacts et des changements climatiques futurs, et également donc la question des scénarios sur lesquels on devrait se situer pour essayer de réduire les impacts du changement climatique. Alors avant d'en venir à ces questions-là pour le futur, je reviens un petit peu quand même sur l'observation passée. J'ai parlé du changement climatique passé, pas des effets déjà observés sur un certain nombre d'éléments, soit du système physique, mais aussi des systèmes humains. Et donc, en particulier, je fais un zoom là sur ce que dit le GIEC, des impacts déjà constatés du changement climatique. Évidemment, le nombre d'études reste encore limité. Le niveau de confiance, il est indiqué ici par un certain nombre de barres de couleurs. Lorsqu'on est à 3, ça veut dire que c'est une confiance moyenne dans le résultat. À 4, c'est une confiance qui est élevée. 2, elle est faible. Et donc, les seuls impacts finalement véritablement constatés, dont on soit assez sûr, c'est des impacts sur les déplacements de certains écosystèmes, donc des migrations d'écosystèmes marins, et également l'augmentation du risque d'incendie. Vous vous souvenez certainement qu'il y a eu des incendies majeurs au Portugal et en Grèce ces dernières années, qu'on attribue là effectivement au réchauffement climatique et donc de ce fait aux émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Bon, je ne vais pas insister sur les autres éléments, ça me prendrait trop de temps, mais c'est simplement pour illustrer la première conclusion du rapport de synthèse du GIEC qui ajoute au fait que l'influence de l'homme sur le système climatique est claire, manifeste, et je le disais tout à l'heure, on le voit aussi donc maintenant sur quelques répercussions sur les systèmes humains et naturels qui sont autres que climatiques. Alors, sur le futur, donc, cette courbe, en fait, cette série de courbes n'est pas extraite du rapport du GIEC, mais elle illustre assez bien, finalement, à la fois l'objectif, finalement, qu'on se fixe pour la COP21 au niveau international, de stabilisation du climat à 2 degrés, et puis la situation, finalement, le constat que l'on peut faire actuellement de la situation concernant les émissions de gaz à effet de serre. En fait, il s'agit plus exactement ici des émissions globales de CO2 liées donc à la fois à la combustion des combustibles fossiles et à la production de ciment, ce qui est l'essentiel. Alors donc, la courbe noire, ce sont les observations, et les courbes de couleur rouge, ce sont les scénarios qui ont été considérés par les experts du GIEC. Et sur l'ensemble de ces scénarios, le scénario donc sobre, c'est celui qui conduit à un réchauffement qui serait compris entre 0,9 et 2,3 degrés par rapport au pré-industriel, donc c'est ce fameux scénario finalement de stabilisation du climat à 2 degrés, eh bien il nécessite qu'on arrive à un pic d'émissions autour de 2020 et qu'on ait des émissions négatives à la fin du siècle. Donc on rejoint finalement ce défi aussi pour l'ingénieur qui est d'aller capter du carbone qui est actuellement dans l'atmosphère sous forme de CO2 pour le réenfouir par exemple dans les sols. Donc pas simplement de la séquestration au moment de l'émission, mais de la captation de carbone diffus qui existe dans l'atmosphère. Et effectivement, il y a des pistes déjà de recherche sur ces sujets-là et même des premières applications. Le scénario sur lequel on se situe, c'est plutôt ce scénario rouge où le climat aurait une température donc, de 3 à 5 degrés plus chaude que le pré-industriel à la fin du XXIe siècle. Alors donc, les effets, on peut les mesurer sur les impacts, là aussi des futurs. du changement climatique pour ces deux scénarios types, 2 degrés et, bon là ce qui était indiqué c'est 4 degrés, c'était la moyenne de la fourchette que j'indiquais tout à l'heure. Donc pour, ces, pour différents types d'impact, bon, là je vais l'illustrer simplement pour l'Europe, faire un zoom sur les principaux impacts attendus des changements climatiques en Europe, avec dans ce qui était indiqué, vous voyez les scénarios 2 degrés, 4 degrés pour la fin du siècle, et une zone assurée qui est simplement une façon de représenter la diminution de l'impact qui est sur une échelle qui va de très bas à très haut, lorsque l'on prend en compte les mesures d'adaptation au changement climatique. Donc c'est l'effet potentiel de l'adaptation dans la réduction des impacts. Et donc les impacts principaux attendus, c'est l'accroissement des pertes économiques donc un accroissement aussi des populations affectées par les inondations ou submersions marines à l'échelle de l'Europe, je ne dis pas que c'est la France nécessairement, l'accroissement des restrictions d'eau et l'accroissement des pertes économiques et des populations affectées par les vagues de chaleur. Ce sont les trois grands types d'impacts qui ont été identifiés à l'échelle européenne. Et puis donc, dernière figure d'illustration, c'est une figure qui va permettre aussi de revenir à la COP21. C'est une figure assez complexe, qui est pourtant quand même dans le résumé pour décideurs du rapport de synthèse. Elle croise énormément d'informations. Donc je vais la décomposer en deux parties. Une première partie qui consiste à montrer quels sont les effets déjà des émissions de gaz à effet de serre cumulées depuis 1970 sur le réchauffement de la température depuis le début de la période industrielle. Et ça c'est la figure qui est représentée ici. Et donc comme ça a été dit tout à l'heure, voilà, l'observation est ici, on a accumulé une certaine quantité qui est proche à peu près 2000 gigatonnes de carbone, de CO2, depuis le début de la période industrielle. Et on sait qu'on ne doit pas dépasser 3000, en fait, si on veut stabiliser le climat à une température de 2 degrés. Donc on a droit encore à 1000 gigatonnes de CO2 à émettre si on veut stabiliser le climat à 2 degrés. Et ici à gauche, vous avez une échelle qui correspond à l'augmentation de risque d'impact dans différents domaines. Alors on y trouve des systèmes menacés, donc les coraux, je les ai mentionnés tout à l'heure, par exemple, ce serait sur cette échelle-là. Dès 1 degré d'augmentation, on a un impact qui est assez sévère sur les coraux. Et puis on voit qu'en fonction du type de risque, je ne vais pas le détailler, mais à toute extrême droite, là ici, ce sont des risques qui sont liés par exemple à des fontes majeures de la calotte antarctique. Voilà, donc sur un ensemble d'événements potentiels comme conséquence du changement climatique, on peut évaluer quel est finalement le degré de réchauffement que l'on peut se permettre pour limiter le risque à un certain niveau. Donc c'est ça le raisonnement qui finalement on invite la communauté internationale à tenir. Donc le 2 degrés, et on situe le 2 degrés ici, vous voyez que finalement suivant le type de risque, ça peut être inférieur ou ça peut être supérieur, le passage d'un risque faible à un risque élevé. Donc compte tenu de cela, si on a défini le niveau de risque et donc le niveau de réchauffement, c'est donc d'après l'accord international de Copenhague, c'est 2 degrés qui a été fixé comme limite par les politiques, eh bien ça veut dire qu'on doit limiter le réchauffement les émissions à 3000 gigatonnes de CO2, et ce qui veut dire que cela fixe aussi des objectifs de réduction, comme là on peut lire sur cette figure qui est ici en bas, je la grossis, eh bien qu'il faut réduire finalement les émissions de 50% par rapport au niveau de 2010 à l'horizon 2050 pour pouvoir respecter cette limite des 3000 gigatonnes. Voilà comment il faut lire cette figure. Voilà donc les conclusions du rapport de synthèse, je ne vais pas les lire, elles sont dans le rapport lui-même, juste les parties qui sont en gras dans ses principales conclusions. Donc il apparaissait cette figure que pour limiter l'ampleur des changements climatiques, il faudrait réduire fortement et durablement les émissions de gaz à effet de serre. La troisième conclusion importante du rapport de synthèse, c'est de montrer qu'il n'y a pas d'opposition entre l'adaptation et l'atténuation, et de le présenter plutôt comme des stratégies complémentaires. Ça, le rapport, évidemment, le développe. Et puis, une dernière conclusion importante, c'est qu'il y a de nombreuses options d'adaptation et d'atténuation pour faire face au changement climatique. Aucune ne suffit à elle seule. Il faut voir Et finalement, on encourage à avoir aussi une approche systémique qui permet de tirer les co-bénéfices aussi des mesures que l'on peut prendre pour réduire les effets du changement climatique, comme par exemple, on a parlé des questions d'alimentation bien, ou les questions de développement, par exemple, ces questions-là peuvent être traitées aussi en même temps que les questions de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou d'adaptation au changement climatique. Voilà, je m'arrête là.
Merci beaucoup, Monsieur Planton, de ce résumé de résumé, cette synthèse de synthèse. Et il faut bien comprendre que derrière tout cela, 2500 experts qui eux-mêmes ont fait la synthèse de milliers, je ne sais plus combien, 20 000 ou beaucoup plus, papiers. Peut-être, dis-moi le chiffre.
Les... 9 000 pour le volet 1, je connais
ça. 9 000 pour un des chapitres, voilà.
Un des volets.
Merci. Rapports. Oui, oui. Voilà, donc maintenant nous arrivons à Philippe Curie. Nous sommes honorés parce qu'il est aussi notre voisin, il est de la métropole. Philippe est un scientifique français qui a développé ses recherches dans le domaine de la biologie océanographique avec de forts liens avec l'exploitation des écosystèmes marins, donc bien dans cet esprit aussi proche, si on veut, de l'entreprise et de l'entreprise durable, on peut le faire. Il a évidemment beaucoup publié. Il a aussi publié des livres comme par exemple Une mer sans poissons, ou Mange tes méduses, qui ont eu un certain succès, même un succès certain à l'international. Il s'est aussi engagé auprès des politiques publiques pour leur parler, les impliquer par rapport à ces défis et ces questions